Voilà, Père Nicolas, bonsoir et bienvenue sur Radio Maria France.
Merci beaucoup, merci Jérôme, bonsoir à tous. Alors, concentré, oui, on espère. En tout cas, il faut l'être pour découvrir la petite note dont je vais vous parler pour commencer. Les mauvaises langues disent que dans les contrats d'assurance, il faut regarder ce qui est écrit en tout petit. Alors, c'est certainement pas vrai, hein. Eh bien, pour nous, dans ce livre Le Christ vit de l'âme, j'espère que ceux qui ont le texte dans leur édition, il y a, aux environs de la page 100, à la page 101, une petite note écrite vraiment toute petite, et qui en fait nous ouvre l'ensemble du texte de ce soir. Alors, cette petite note qui est peut-être due à Don Thibault, donc celui qui a mis en place le texte de Don Marmion. Cette petite note, c'est un extrait d'un livre de saint Thomas d'Aquin qui s'appelle « Au sujet de la vérité », un livre qui est, comme beaucoup de textes de saint Thomas, divisé en questions. Là, c'est la question 27, l'article 4. Pour ceux qui voudraient aller voir sur Internet ou qui auraient les œuvres complètes de saint Thomas en 52 volumes et qui vont les chercher facilement pour trouver exactement la référence. Donc, question 27, article 4. Et dans ce passage de saint Thomas d'Aquin, il y a cette méditation sur la façon dont l'humanité de Christ Jésus nous applique la grâce. Donc l'humanité du Seigneur Jésus nous applique la rédemption spirituellement par la foi, corporellement par les sacrements. C'est ça qui est important. Donc, comme deux grands canaux, spirituellement et corporellement. C'est pour ça que plusieurs fois, quand on a parlé de communion eucharistique spirituelle et de communion eucharistique corporelle, en fait, nous avons suivi saint Thomas. Et là, le texte de Don Marmion va essayer de nous dire comment le Christ agit sur nous pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner la vie divine, comment il agit corporellement par les sacrements et spirituellement par la foi. Alors je vais me permettre, comme la partie sur les sacrements est relativement classique, on pourrait la trouver dans plein d'autres livres en disant que les sacrements c'est très bien, c'est essentiel, qu'il faut bien se préparer à les recevoir, que c'est merveilleux, qu'il y en a fait, etc. etc. Je voudrais me permettre de passer ce passage-là et d'aller assez rapidement sur l'application spirituelle par la foi de la rédemption que le Christ accomplit pour chacun d'entre nous. Alors je reviens quand même au début du texte, là où nous étions arrêtés pratiquement, pour évoquer au moins quelques instants les sacrements. Comment, maintenant que le Christ est remonté aux cieux, maintenant que les hommes ne le voient plus, ne l'entendent plus, ne le touchent plus, comment se produit cette puissance de grâce et de vie qui doit nous toucher? Comment l'action du Seigneur Jésus s'exerce-t-elle sur nous et en nous? Comment le Christ est-il maintenant la cause efficiente de notre sainteté? Comment le Christ produit-il en nous la grâce, source de vie? La réponse, je vous l'ai donnée avant. C'est toujours agréable d'avoir la réponse avant la question. C'est comme ça qu'on fait avec Jérôme quand on prépare les émissions. Le Christ étant Dieu est maître absolu de ses dons et de la manière dont il est distribué. Pas plus que nous ne pouvons limiter la puissance du Seigneur Jésus, nous ne pouvons déterminer tous ses modes d'action. Le Christ Jésus peut, quand il le veut, faire affluer la grâce directement dans l'âme, sans intermédiaire. La vie des saints est pleine de ces exemples de la liberté et de la libéralité de Dieu. Alors, autrement dit, comme l'explique saint Thomas d'Aquin, cette fois-ci dans son ouvrage le plus connu, la Somme théologique, dans la troisième partie, Dieu n'a pas voulu enchaîner sa grâce au sacrement. Sacrements sont un canal immense pour nous communiquer la grâce, mais Dieu, dans sa liberté infinie et sa sagesse non moins infinie, Dieu ne veut pas enchaîner toute la grâce, toute grâce à ses sacrements. Dans l'économie actuelle, alors l'économie, c'est le dessein de Dieu, c'est encore un des mots pour parler du plan de Dieu, du projet de Dieu. La voie normale et officielle, on est un peu étonné par le mot officiel, là, c'est un peu marqué par l'époque, si on veut. Disons, la voie normale et publique, la voie normale et sociale, si on veut. La voie par laquelle la grâce du Christ nous parvient, ce sont avant tout les sacrements qu'il a institués. Il faut souligner très fortement le « avant tout ». « Avant tout », ça ne veut pas dire « exclusivement », et ça ne veut pas dire non plus « majoritairement ». Notre vie ne se passe pas 24 heures sur 24 à recevoir et à vivre les sacrements. Et pourtant, la grâce nous arrive, nous y sommes ouverts 24 heures sur 24. Il pourrait, le Seigneur, nous sanctifier autrement qu'il ne le fait, et du moment que, étant Dieu, il a établi lui-même ses moyens de salut, puisqu'il est l'auteur de tout l'ordre surnaturel, nous devons, toujours en esprit d'obéissance et de volonté d'entrer dans le plan de Dieu, nous devons recourir à ces moyens-là. Toutes les activités spirituelles, si nous voulons, toutes celles que même nous pourrions inventer pour entretenir, pour augmenter en nous la vie éternelle, la vie même de Dieu, la vie de la grâce, tout cela n'a de valeur que dans la mesure où ces activités nous aident à profiter plus abondamment de ces sources de vie, et donc en particulier des sacrements. Je me déplace un petit peu dans le texte, encore une fois, pour ceux qui l'ont sous les yeux, pour aller à la page 93, où la même idée est développée une deuxième fois avec d'autres mots, de façon intéressante. Alors, il y a un nœud queue. Toute notre activité spirituelle devrait n'avoir d'autre raison d'être, d'autre but, que de nous permettre de nous mettre à même de puiser toujours plus abondamment, plus largement, avec plus de foi et de pureté, aux sources divines des sacrements. Je me permets de le répéter encore une fois, les nœuds queues sont très dangereux en théologie comme en spiritualité. Il faut les manier avec beaucoup, beaucoup de prudence. Alors, peut-être qu'on peut oser changer un tout petit peu le texte en disant il est bon que notre activité spirituelle se donne comme but de nous mettre à même de puiser toujours plus abondamment à ces sources divines que sont les sacrements. De faire épanouir avec plus d'aisance et de liberté, plus de vigueur et de puissance, la grâce propre de chaque sacrement. Là, si on ne lisait que cette partie du texte de Don Marmion, on pourrait vraiment penser qu'il met tout sur les sacrements. Et là, heureusement, il y a une suite. Il y a une suite qui va venir rééquilibrer, en grande partie grâce au texte de saint Thomas d'Aquin, que je vous ai lu en tout premier, qui va venir rééquilibrer l'approche en disant oui, dans la pratique quotidienne, ça peut être une spiritualité tout à fait valable de se dire, voilà, la majeure partie de mes démarches spirituelles va avoir pour but de mieux vivre les sacrements. À la base, les sacrements de baptême, de confirmation, ensuite de mieux vivre le sacrement qui m'a constitué ce que je suis dans le corps social de l'Église, mariage ou l'ordre, eh bien, le sacramental de la vie religieuse, ou d'autres appels du Seigneur qui sont liés très fortement au sacrement du baptême, me préparer éventuellement à recevoir le sacrement de l'onction des malades, d'une manière beaucoup plus proche, beaucoup plus quotidienne, toutes ces activités spirituelles peuvent avoir pour but de préparer ma prochaine confession et ma prochaine participation à la messe avec la communion. C'est une spiritualité extrêmement liturgique, extrêmement sacramentelle, qui encore une fois va avoir toute sa valeur, tout son sens, si elle est profondément et paisiblement équilibré par ce que nous allons dire maintenant et qui est un peu plus original dans l'ensemble de la littérature spirituelle. Donc, nous venons de nous occuper de l'application corporelle par les sacrements de la rédemption à chacun d'entre nous. Voici maintenant l'application spirituelle par la foi. Je suis là à la page 94 dans mon édition. Les richesses de la grâce que le Christ nous communique sont si grandes, saint Paul dit qu'elles sont inscrutables. On ne peut pas mener l'investigation spirituelle et intellectuelle jusqu'au bout des richesses du Christ. Inscrutables, insondables. Donc les richesses de la grâce du Christ sont tellement immenses que les sacrements ne les épuisent pas. Vous voyez, le rééquilibrage, il arrive vraiment très très rapidement. Les sacrements n'épuisent pas les richesses de la grâce. En dehors des sacrements, le Christ agit et opère encore en nous. Il y a une très belle expression de cela sous la plume de Don Marion dans une lettre du 29 mai 1915. Il dit à son correspondant, laissez Dieu agir sur nous dans la prière. En fait, il s'agit d'agir et opérer en nous. Dans cette lettre, il exprime les choses d'une façon un petit peu différente. Laissez Dieu agir sur nous dans la prière. Il y a une suite à la phrase qui est très belle, très consolante. Laissez Dieu agir sur nous dans la prière, mais ni de la paresse, ni de l'inertie. Ne pas rien faire que de prier. L'acte intérieur de la prière est une production de fruits, et la production de fruits dont parle Jésus dans l'Évangile, selon saint Jean surtout, est production de fruits portée à son plus haut point. Ce que le Seigneur Jésus dit, voilà, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous demeuriez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et nous pouvons voir que l'acte intérieur de la prière est la production du fruit porté à sa plus haute efficacité, à sa plus haute fécondité. Il s'agit que le Christ agisse sur nous, agisse en nous. Donc les richesses de la grâce, tellement infinie que les sacrements ne peuvent pas les épuiser. Comment cela va-t-il se passer? Cela se passe par le contact que nous avons avec le Seigneur Jésus dans la foi. Si on veut déployer les expressions de saint Thomas d'Aquin, il y a un contact corporel par les sacrements, et il y a un contact spirituel par la foi. Qui opère la rédemption et le contact. Voilà pourquoi le fait d'être réellement en contact avec la liturgie, avec les sacrements, et non pas par la médiatisation des moyens de communication, le fait d'être en contact directement, c'est cela qui produit dans la manière habituelle, la manière normale de la vie de l'Église, cela qui produit l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption s'opère en nous par ce contact. Voilà, le contact que nous avons avec le Seigneur Jésus dans la foi. Relisons, pour comprendre ceci, une scène rapportée par saint Luc. Dans une de ses courses apostoliques, Jésus est entouré, pressé par la foule. Une femme malade, désirant sa guérison, s'approche de Jésus, et pleine de confiance, touche le bord de son vêtement. Aussitôt, le Seigneur Jésus demande à ceux qui l'entourent, « Qui m'a touché ?» Et saint Pierre de répondre, « Maître, la foule te presse de tous côtés, et tu demandes qui t'a touché ?» Jésus insiste, « Touché, car j'ai senti qu'une puissance était sortie de moi. » En effet, à l'instant même, cette femme avait été guérie, et elle l'avait été à cause de sa foi. Saint Luc, chapitre 8, verset 48, « Ta foi t'a sauvé. » la foi de la sauver. Pourquoi relire ce passage d'évangile? Parce que quelque chose de similaire se passe pour nous aussi. Chaque fois qu'en dehors des sacrements, nous approchons du Seigneur Jésus, une force, une vertu divine sort de lui et entre en nous pour nous illuminer, pour nous aider. C'est ce contact par là. Le moyen de s'approcher du Seigneur Jésus, nous le connaissons tous, c'est la foi. Par la foi, nous touchons le Christ et à ce divin contact, peu à peu, notre âme se transforme. Le Christ est venu parmi nous pour nous donner part à toutes ses richesses, à toute la perfection de ses vertus. Car tout ce qu'il a nous appartient. Tout ce qu'il reçoit, il le reçoit pour nous le donner. Et dans un autre livre de Don Marmion, celui sur le moine, un livre qui est un commentaire de la règle de Saint-Benoît, Don Marmion a une définition très particulière du moine, qui vraiment peut être étonnante, parce qu'il y a cette ressemblance avec Jésus, fait que, comme on nous dit, le tout du moine, le tout de la vie du moine, est de chercher Dieu pour donner Dieu aux autres. On pourrait croire que c'est le prêtre, ça, mais Don Marmion nous dit, ça c'est la vie du moine, ou de la moniale. Chercher Dieu pour donner Dieu aux autres. Le Seigneur Jésus n'a pas eu besoin de chercher son Père, mais tout ce qu'a reçu le Christ de Dieu, c'était pour donner Dieu aux autres. Et ainsi, parce que le but c'était de nous le donner, en espérance, tout cela nous appartient. Tout est pour nous. Nous retrouvons du saint Paul Purgeon. Tout est pour nous. Chacune des actions du Seigneur Jésus est pour nous non seulement un modèle, mais une source de droit. Nous retrouvons la même idée qui en fait se développe depuis plusieurs chapitres et pour nous plusieurs semaines. Non seulement un modèle, mais encore une source de grâce. Si le Seigneur Jésus n'est qu'un modèle, finalement ça signifie qu'il n'est pas Dieu. Qu'il est vraiment homme, sans être vraiment Dieu. Et parce qu'il est à la fois vraiment homme et vraiment Dieu, il est non seulement un modèle, c'est le modèle, mais il est la source de la vie de Dieu. Il est la source de la grâce. En pratiquant toutes les vertus, le Seigneur Jésus nous a mérité la grâce de pouvoir pratiquer ces mêmes vertus que nous regardons en lui. Et chacun des mystères de sa vie contient une grâce spéciale dont il veut donner une véritable participation. On voit comment le contact par la foi transforme la méditation des mystères. La méditation des mystères, en ce mois de Marie, nous pensons peut-être encore plus que d'habitude au chapelet. La méditation des mystères nous fait contempler, et si elle se fait dans la foi vivante, la foi remplie de charité, la foi remplie de Saint-Esprit, eh bien, il n'y a pas seulement le regard porté sur les mystères du Seigneur Jésus et de la Vierge Marie, mais il y a la participation rédemptrice à ces mystères. La force des mystères, la vertu qui sort d'eux, s'écoule jusqu'à nous. Il est certain que ceux qui ont vécu avec le Christ en Judée et qui avaient foi en lui ont reçu une abondante part de ces grâces qu'ils méritaient pour tous les hommes. Toutes les pages de l'Évangile nous le montrent. Le Christ avait non seulement le pouvoir de guérir les infirmités corporelles, tous ces miracles qui sont essentiels pour nous conduire à la foi, pour nous conduire à une foi très vive en la divinité du Dieu. Mais le Christ avait aussi le pouvoir de sanctifier les âmes. Voyez comment il a sanctifié la Samaritaine qui, après avoir dialogué avec lui, a cru qu'il était le Messie. Comment il a purifié Marie-Madeleine, qui, considérant en lui le prophète, l'envoyé de Dieu, venait répandre ses parfums sur ses pieds. Le contact avec le Fils de Dieu devient pour les âmes qui ont foi en lui la source de la vie. Ta foi t'a sauvé. En fait, beaucoup de ces paragraphes de Dom Marignon cherchent à nous donner une interprétation, nous donner une exégèse la plus spirituelle possible de cette affirmation tellement fréquente dans l'Évangile, « Va, ta foi t'a sauvé ». Une affirmation qu'on pourrait même mettre au présent, elle aurait tout son sens. Ta foi te sauve. Ta foi est en train de te sauver. Ta foi est en train de te faire recevoir ma rédemption, mon salut et ma vie éternelle. Durant la Passion, comment par un regard, le Seigneur Jésus donne à Pierre qui l'a renié la grâce du repentir. Là, le contact se fait non seulement par le regard, mais par la foi qui remplit le regard de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui a déjà confessé que Jésus est ici, qu'il est le Fils du Dieu vivant. Le regard de Saint-Pierre, même si nous sommes avant la Pentecôte, donc il n'y a pas encore eu ce don charismatique, ce don total naturel de la foi vivante, il y a déjà une foi qui est particulièrement développée chez Saint-Pierre. Le regard de Saint-Pierre est un regard posé avec foi, avec une certaine foi sur le Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, le repentir peut entrer dans l'âme de Saint-Pierre. Le repentir, la contrition, qui sont les débuts de la rédemption. La rédemption commence par se repentir. À la mort du Seigneur Jésus, le bon larron, il reconnaît Jésus comme fils de Dieu, puisqu'il lui demande une place dans son royaume, et aussitôt, le Sauveur, sur le point de mourir, lui accorde la rémission de ses péchés. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Nous savons cela, nous en sommes si convaincus que parfois nous disons, si il m'avait été donné de vivre avec le Seigneur Jésus en Judée, de le suivre comme les apôtres, de l'aborder pendant sa vie et d'être présent à sa mort, je me serais si sûrement sanctifié. Et pourtant, nous devons écouter ce que nous dit le Seigneur Jésus. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru en moi. Bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu. N'est-ce pas là nous faire entendre que le contact avec le Seigneur Jésus par la foi seule est encore plus efficace et nous est encore plus avantageux. Soyons persuadés que la puissance et la vertu de la sainte humanité du Seigneur Jésus sont les mêmes pour nous que pour ses contemporains. Car le Christ vit pour toujours. Le Christ, hier, et aujourd'hui est le même et pour les siècles. La lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 6. Ce qui fait la différence, c'est la foi ou la non-foi, ce n'est pas le mode de présence du Seigneur Jésus avant ou après l'ascension. C'est cela que Dom Marignon souhaite vraiment nous répéter encore pour que nous en ayons une certitude qui nous permet de recevoir la rédemption. Alors, Saint-Augustin, puisque Dom Marignon veut nous parler de Saint-Augustin, dans un de ses sermons qu'il a vraiment prononcé, parce que chez Saint-Augustin, il y a des sermons qu'il a écrits à sa table de travail dans son monastère et qui n'ont jamais été prononcés, et là, celui-ci, il l'a vraiment dit, il l'a animé avec les chrétiens d'Hippone, dans son église, dans sa basilique. Dans un de ses sermons, Saint-Augustin pose la question, comment pouvons-nous toucher le Christ? Comment pouvons-nous le toucher? maintenant qu'il est remonté au ciel. Peut-être un sermon autour de l'ascension. Voilà. Bon, à l'époque, les sermons étaient encore plus interactifs que dans certaines de nos paroisses, puisque les paroissiens d'Hippone râlaient, applaudissaient, pleuraient, presque se roulaient par terre. Et ça ne déplaisait pas à Saint-Augustin, ça ne l'impressionnait pas du tout. Là, comme la réponse ne vient pas, il finit par la donner, il dit « par la foi ». Celui qui touche le Christ, celui-là touche le Christ qui croit dans le Christ. Et Saint-Augustin rappelle la foi de cette femme qui toucha Jésus pour obtenir sa guérison. Par la foi, elle a touché et la santé lui est arrivée. Il y a beaucoup d'hommes charnels, dit Saint-Augustin, qui n'ont vu dans Jésus-Christ qu'un homme. Ils n'ont pas compris la divinité qui était voilée par son humanité. Ils n'ont pas su toucher parce que la foi n'a pas été ce qu'elle devait être. Voulez-vous toucher avec fruit Jésus-Christ? Croyez à la divinité que, comme Verbe, il partage de toute éternité avec le Père. Tu veux bien toucher, dit Saint-Augustin, comprend le Christ là où il est, coéternel au Père. Et si tu poses cet acte de foi, alors tu as touché le Christ. Croire en la divinité du Seigneur Jésus est donc le moyen qui nous met en contact avec le Christ, source de toute grâce et de toute vie. Lorsque, en lisant l'Évangile, nous repassons dans notre esprit les paroles et les actions du Seigneur Jésus, lorsque dans la prière, contemplative surtout, nous contemplons ses vertus, lorsque nous associons dans la célébration de l'Eucharistie, lorsque nous nous unissons à lui dans chacune de nos actions, soit que nous mangions, soit que nous travaillions, que nous fassions quelle action qui plaise à Dieu en union avec les actions que lui-même a accomplies quand il vivait sur terre, lorsque nous faisons tout cela avec foi et avec amour, avec humilité et avec confiance, alors il y a une force, une puissance, une vertu divine qui sort du Christ pour nous éclairer, pour nous aider à écarter les obstacles à son œuvre divine en nous, pour produire la grâce en nos âmes. Mais vous me direz, je ne sens rien. Je ne sens pas cela. L'objection, c'est de dire, je ne ressens rien de cette action du Christ, et même de ce contact du Christ Sauveur. Il n'est pas nécessaire de le sentir. Le Seigneur Jésus disait lui-même que son règne échappe à l'expérience des sens. La vie surnaturelle n'est pas à base de sentimentalité. Elle n'est pas à base de ressenti, comme nous dirions aujourd'hui. Dieu nous fait éprouver la suavité de son service jusque dans nos facultés sensibles. Nous devons dire merci. Nous devons nous servir de ce don inférieur. On retrouve saint Paul, hein, avec, vous souvenez, la première lettre aux Corinthiens, les chapitres 12 et 13, avec l'énumération des dons de Dieu, l'énumération des charismes, et ensuite l'excellence de la charité qui est au-dessus de tous les dons. Là, Don Marmion nous rappelle que ce don que Dieu peut accorder comme il en a envie, d'une expérience sensible de la suavité d'être en contact avec Dieu, ce don-là est un don inférieur. Nous devons nous servir de ce don inférieur comme d'une échelle pour monter plus haut, comme d'un moyen pour augmenter notre fidélité, mais nous ne devons surtout pas nous y attacher, et surtout ne pas fonder notre vie spirituelle sur cette dévotion sensible. Ce serait une base trop instable. trop instable dans le sens aussi simplement de fluctuant. Dieu le donne quand il veut, et Dieu cesse de le donner quand il veut aussi. Alors, non seulement c'est quelque chose d'inférieur, c'est le signe qu'on est au début de la vie spirituelle, qu'on est encore des nourrissons dans la vie spirituelle, mais en plus c'est quelque chose de très instable, qui, même sans péché de notre part, mais sans infidélité de notre part, peut disparaître d'un moment à l'autre, et si nous nous y sommes attachés, on voit le trouble que ça peut déclencher. On voit justement cette instabilité qui va faire irruption dans toute notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Donc, surtout ne pas prendre cette expérience de suavité comme une base. Nous pouvons être autant dans l'erreur en croyant que nous sommes avancés dans la voie de la perfection parce que notre dévotion sensible est très intense, qu'en nous imaginant que nous ne faisons aucun progrès parce que notre âme est dans la sécheresse spirituelle. Donc, l'erreur peut être aussi immense. L'immense erreur d'un côté de la présomption, voilà, de prétendre que nous sommes très très avancés, que pour nous tout va bien dans notre relation avec Dieu parce que nous avons un ressenti mystique absolument extraordinaire, et que ça, à chaque fois que nous communions, c'est vraiment une expérience de grâce, de rencontre, de satisfaction intérieure, d'illumination, tout ce qu'on peut imaginer dans l'ordre de la sentimentalité et de la sensibilité. Mais nous pouvons aussi nous tromper très gravement dans le désespoir, dans le découragement, dans l'affliction et dans la désolation. Parce que je ne ressens pas tout ça, ce serait la preuve qu'il n'y a aucun progrès dans ma relation avec le Seigneur Tout-Puissant, avec la Sainte Trinité. On voit l'instabilité et le péril de cette réalité qui pourtant au départ est donnée par Dieu. Les dons de Dieu sont immenses, mais les dons de Dieu mal utilisés peuvent tourner à la catastrophe. Il y a une espèce d'écologie dans la vie spirituelle. Comme nous pouvons massacrer la nature si belle qui nous est donnée par Dieu, comme nous pouvons utiliser des dons de Dieu comme par exemple la nourriture et finir par nous détruire avec la nourriture, avec un excès de nourriture, et bien de la même manière, il peut y avoir une espèce de gourmandise surnaturelle qui court après les grâces sensibles et qui fait de quelque chose qui est donné avec amour par le Seigneur l'instrument de notre perte. Sinon de notre perte, parce que là c'est un petit peu dramatique, l'instrument de notre paralysie spirituelle. Nous sommes fossilisés sur place et on peut dire aussi nous sommes infantilisés. Nous restons des bébés dans le domaine de la vie spirituelle. Quelle est donc la vraie base de notre vie surnaturelle? Encore une fois, comme ça arrive souvent entre nous, il n'y a pas un suspense immense. Hein. Désolé, on ne peut pas dire qu'on ménage beaucoup d'effets de surprise. Donc, la base de notre vie surnaturelle, c'est la foi. Et la foi est une vertu qui s'exerce par nos facultés supérieures, l'intelligence et la volonté. Alors, il n'y a pas qu'une vertu, elle est beaucoup plus que ça chez saint Paul, hein, puisque intelligence et volonté nous rappellent bien que la foi, c'est toujours la foi vivante, la foi informée par la charité, mais dans la lettre, dans le texte de saint Paul, tel que saint Paul a voulu que nous le comprenions, la foi, c'est non seulement la charité et la lumière de la foi dans la connaissance, mais c'est aussi le don même de la grâce. La foi, c'est cet organisme spirituel absolument merveilleux. La foi, du côté plus de l'intelligence, de la connaissance au sens habituel du terme, la foi va nous dire quelque chose d'essentiel. Elle va nous dire que Jésus est Dieu aussi bien qu'homme. que son humanité est l'humanité d'un Dieu. Nous ne pèserons jamais suffisamment les affirmations de la foi, les affirmations qui sont celles de tout l'Évangile, de tout Saint Paul, de tout le Nouveau Testament, l'humanité de Jésus et l'humanité d'un Dieu. Et l'humanité de l'être et l'infinie sagesse, l'amour même et la toute-puissance. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait à un moment rapproché Dom Marmion de Bérulle, de l'école française de spiritualité, avec Bérulle, avec Saint-Jean-Eudes, avec M. Ollier, parce qu'il y a cette manière de faire du mystère de l'incarnation le centre de toute la spiritualité. Le mystère de l'incarnation, c'est la profession de foi, vu de notre point de vue, que Jésus est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Là, ce mystère de l'incarnation, il est exprimé de cette manière-là par Dom Marmion, à ce stade de son développement, l'humanité de Jésus est l'humanité d'un Dieu. Comment donc douter que lorsque nous nous approchons du Seigneur Jésus, même en dehors des sacrements, par la foi, avec humilité et confiance, une puissance divine dérive de lui pour nous éclairer, nous fortifier, nous aider, nous secourir, nous purifier, nous sauver. Nul ne s'est jamais approché avec foi du Christ Jésus sans avoir été atteint par les rayons bienfaisants qui s'échappent sans cesse de ce foyer de lumière et de chaleur. Dieu est amour, Dieu est lumière. Une vertu sortait de lui. Le Christ Jésus, qui est vivant pour toujours et dont l'humanité demeure indissolublement unie au Verbe divin, devient donc ainsi pour nous, cela dans la mesure de notre foi, de notre désir de l'unité, une lumière et une source de vie. Jésus, dont l'humanité demeure indissolublement unie au Verbe divin, nous sommes encore dans une méditation sur le mystère de l'Ascension. Lorsque le Christ monte au ciel, il monte avec son humanité. Il emporte son humanité. C'est l'ascension de l'humanité du Christ dans la Sainte Trinité. Bien. Le Christ, depuis l'éternité, depuis le sein de la très sainte Trinité, le Christ nous communique par le contact avec lui lumière et vie éternelle. Et peu à peu, si nous sommes fidèles à le contempler de cette façon, contempler avec cette foi dans le mystère de l'incarnation et dans tous les mystères. Si nous sommes fidèles à le contempler de cette façon, le Seigneur Jésus imprime en nous sa ressemblance. Il se révèle à nous plus intimement, nous fait partager les sentiments de son cœur, il nous donne la force de mettre notre conduite en accord avec ses sens. Et le contact par la foi avec le Christ fait que nous pouvons recevoir de l'intérieur cette imitation. Il est au plus haut des cieux, d'accord, mais par la foi, il est en nous, il habite en nous, il habite en nous pour nous combler de sa vie éternelle. À nouveau, au risque de cesser de nous répéter, prions le Saint-Esprit, prions le Saint-Esprit qui va nous aider à grandir dans cette foi vivante et simple.
Merci beaucoup, Père.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir, Père.